Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, vous vous rappelez que nous avons laissé l'étude de notre Seigneur Jésus-Christ avec saint Thomas d'Aquin au point où saint Thomas étudiait Jésus-Christ chef de l'Église. Dans la question suivante, saint Thomas pose la question « Et Satan, est-il le chef des méchants ?» La première chose que je voudrais vous faire remarquer, mes bien chers frères, c'est l'importance de cette question et l'importance qu'elle soit située à cette place précise dans l'étude de la théologie sur notre Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, l'importance de cette question. Parce que il y a une lutte, une inimitié qui a été mise par Dieu le jour même du péché originel. Dieu s'est adressé à Satan et il lui a dit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. » Et on peut traduire également sa descendance par son descendant. Une inimitié donc entre Satan et toute sa descendance. La descendance de Satan, c'est très important cela. Il y a tous ceux qui se reconnaissent en Satan. Monseigneur Lefebvre parlait souvent de Satan et de ses complices. Satan et ses satellites. Satan et ceux qui le suivent. Si vous regardez dans l'index du livre Monseigneur Lefebvre, Nos rapports avec Rome, vous trouverez une dizaine d'entrées Satan et ses satellites ou ses complices. Il est évident qu'il y a une lutte. Il est évident que le démon, qui était révolté contre Dieu, lorsqu'il a vu que Dieu crée l'homme, immédiatement il s'est dit « Je tiens ma vengeance contre Dieu, je détruirai son œuvre, j'abîmerai ce qu'il fait sur la terre, je détruirai son royaume. » Et dès le début, il s'est présenté à Ève. Et cela continue, continuellement. Pourquoi est-il important que cette question soit étudiée précisément à cette place? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est que la foi en notre Seigneur Jésus-Christ nous envoie au combat. Bien sûr, la foi, ça n'est pas le combat. Bien sûr, il y a une union à notre Seigneur qui est plus importante que le combat. Mais le serviteur n'est pas au-dessus du maître. Et puisque notre Seigneur Jésus-Christ a eu à combattre contre toutes les forces mauvaises déchaînées par le démon, il est évident que nous aussi, nous aurons à combattre. La foi n'a pas pour but de nous envoyer au combat, mais du moment qu'il y a la foi dans ce monde ici-bas, il est évident que la foi engendre le combat. Et l'amour de Dieu engendre la haine de l'erreur. La fidélité à Dieu engendre le combat contre les forces qui nous emmènent en dehors de lui. Cette première raison de l'importance que ce traité soit à cette place et non pas à une autre, il s'agit de l'incarnation. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas désincarné. On pourrait facilement faire une religion désincarnée. Notre Seigneur est venu dans ce monde Et c'est la deuxième raison de l'importance de la place de ce traité, ici et pas ailleurs, c'est que nous devons tout juger par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Si on ne juge pas des luttes de ce monde, des difficultés de ce monde, du péché, de Satan, de tout ce qui se passe ici-bas, si on n'en juge pas par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ, alors on ne peut pas en juger. Et c'est d'ailleurs le drame de tous les contre-révolutionnaires qui n'ont pas la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sentent, ils voient bien le mal. Ils sentent qu'il faut un remède. Et ce remède leur échappe, les pauvres, parce qu'il n'y a de remède qu'en notre Seigneur Jésus-Christ et parce qu'il n'y a de jugement des choses d'ici-bas que par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne vous dis pas qu'on ne peut pas écrire un livre de politique à propos de la Révolution. Je parle de la Révolution avec un grand R, je ne parle pas seulement de la Révolution française. Je ne vous dis pas qu'on ne peut pas écrire un livre de philosophie. Mais politique et philosophie, comme tout le reste, toujours, ne sont que des marchepieds vers la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est d'ailleurs ce en quoi on peut féliciter tous ces contre-révolutionnaires, même quand ils n'ont pas la foi, parce que malgré tout, ils édifient des marches qui permettent de monter vers Jésus-Christ. Cependant, ces marches sont comme un escalier qui cherche vers où ils montent. Et c'est à nous qui avons la foi de les aider à orienter leur courage, leur clairvoyance, vers notre Seigneur Jésus-Christ. Sinon, ils buteront dans les murs. Il faut Jésus-Christ, il faut être réaliste. Le réalisme se juge par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Thomas d'Aquin pose une question. Satan est-il le chef des méchants comme notre Seigneur est le chef de l'Église et de son corps mystique, c'est-à-dire des justes? Et il dit non, pas comme. Il est le chef des méchants, mais pas de la même manière. Et pour cause, il y a la manière vraie, et puis il y a la manière fausse. La manière fausse, elle est faussée, donc elle ne peut pas être semblable à la vraie. Quelles sont les différences? La première différence, c'est que notre Seigneur est un chef qui agit de l'intérieur. Notre Seigneur ne se contente pas de suggérer que nous le suivions, il nous donne la grâce de le suivre, il nous donne la foi, il nous donne la charité. Et il y a également des aides extérieures, avec la prédication de l'Église, avec les sacrements. Mais toutes ces aides extérieures ont pour racine et pour but l'influence de notre Seigneur Jésus-Christ à l'intérieur de chacun d'entre nous. Le royaume des cieux, intra vos est, dit l'Écriture sainte, dit l'Évangile, dit notre Seigneur d'ailleurs, il est en vous, intra. On peut traduire au milieu de vous, mais on peut traduire également en vous. Satan, lui, ne peut pas agir de l'intérieur. Il ne peut agir que de l'extérieur. Satan peut suggérer, mais il ne peut pas entrer dans le cœur, parce que s'il entrait dans le cœur, il violerait la volonté. Une volonté violée, ce n'est plus une volonté, c'est de la contrainte. Il n'y a que nous, hélas, qui pouvons ouvrir la porte à Satan. C'est très important cela, parce que si Satan ne peut pas agir à l'intérieur des hommes, ça veut dire que son royaume a une faiblesse. Et ça veut dire que son royaume, surtout, est très imparfait. C'est un royaume extérieur. Et par conséquent, il n'y a pas de caractère inéluctable au mal. Certes, la Providence permet que la révolution avance aujourd'hui, mais il n'y a rien d'inéluctable. Nous devons être fidèles à la Providence qui, pour l'instant, ne nous donne pas les moyens. Mais c'est parce que nous ne recourons pas à notre Seigneur Jésus-Christ. Il a suffisamment dit, et il a envoyé la Sainte Vierge pour le dire, pour recommander le chapelet. Et puis la Sainte Vierge à Lourdes, prière et pénitence, et la Sainte Vierge à Pontmain, et à la Salette, et à la rue du Bac. Dieu a suffisamment averti, mais les hommes n'écoutent pas. Faut-il parler, troisième point de ce sermon, faut-il parler d'un complot? Bien sûr que oui. Dès qu'on a compris qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Satan, il est évident qu'il y a entre eux deux une lutte à mort, et il est évident que Satan ne lâche pas la lutte. Or, Satan est intelligent, très intelligent. C'était le plus intelligent des anges. Lucifer, porteur de lumière, la lumière, c'est l'intelligence. Il était plus intelligent que Saint-Michel. Il n'a pas été fidèle alors que Saint-Michel était fidèle. Et Satan met son intelligence depuis des siècles, depuis les origines, enfin depuis la création de l'homme. Satan met son intelligence à organiser la lutte. Comment Satan s'y prend-il? Le grand motif de la contre-église, la raison pour laquelle les méchants sont méchants, la raison fondamentale, c'est la liberté. Enfin, c'est pas la liberté, c'est l'abus de la liberté. Une des choses auxquelles les hommes tiennent le plus, c'est leur liberté. Or, la liberté, nécessairement, notre liberté est orientée vers Dieu. Lorsque l'homme veut posséder une liberté qui soit toute à lui et qui ne soit pas à Dieu, parce qu'il refuse que Dieu possède quelque chose d'aussi essentiel en lui, alors il abuse de sa liberté. Il la retourne contre Dieu. Elle est à moi. Je fais ce que je veux. Ce n'est plus de la vraie liberté, ça devient de l'indépendance, même plus que ça, de la révolte. N'empêche que à la base, c'est un abus de la liberté. Et Satan va souffler sur ce feu de la passion de la mauvaise liberté. Saint Thomas d'Aquin pose la question, Satan a-t-il une influence sur tous les mauvais? Et selon son habitude, Saint Thomas distingue, et il dit, une influence directe, non. Parce qu'il y a des mauvais qui sont mauvais par eux-mêmes, sans avoir eu besoin de Satan. Ça fait d'ailleurs une différence avec les bons, parce qu'aucun bon n'est bon par lui-même sans avoir besoin de Dieu, puisque c'est Dieu qui appelle le premier, puisque c'est Dieu qui le premier attire l'homme. Bref, revenons aux mauvais. Il y a des mauvais qui sont mauvais par eux-mêmes, qui sont vicieux. Et il y a des mauvais qui sont entraînés par l'exemple de Satan, par les suggestions de Satan, par les approbations, par les flatteries et par les récompenses de Satan. Il est évident que Satan donne en ce monde des récompenses à ceux qui travaillent pour lui. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour laquelle la finance, les richesses ont tant d'importance, c'est que Satan favorise le succès ici-bas des entreprises de ses alliés, parce que c'est une manière pour lui de les rémunérer, de les récompenser. La révolution, c'est d'abord un vice. Seulement, vous avez deux types de vicieux. Vous avez les vicieux qu'on pourrait appeler ordinaires. Vous prenez un ivrogne, il sait qu'il a le tort de boire, et puis il dit « mais tant pis, ça m'est égal ». Un voleur sait qu'il a tort de voler, il sait qu'un jour peut-être il sera pris, en tout cas en attendant, eh bien, il a eu la fierté de faire des bons coups, parce que c'est beaucoup ça chez les voleurs. Mais il ne se pose pas de questions métaphysiques. Et il ne se pose pas de questions par rapport à l'au-delà. Ces gens-là sont encore relativement convertissables, parce que quand on leur pose la question « oui, mais après ?» Ben après, si je suis pris, je serai mis en prison. Oui, mais après ? Ben après, je mourrai. Oui, mais après ? Ah, après. Après, si je ne suis pas converti, il y a l'enfer. Ah, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il se met à réfléchir. Et puis, vous avez le révolté qui veut justifier sa révolte. Et alors, on lui dit après, après, je mourrai, après, il y aura l'enfer. Ah non, il n'y a pas d'enfer. On dit, mais Dieu est juste, il punit, il récompense. Alors non, il ne faut pas qu'il y ait de Dieu. Mais enfin, il y a un créateur. Oui, il n'est pas ce que vous croyez. Et donc, les mauvais, intelligents, profondément vicieux, sont poussés à justifier leur révolte. Et ils vont faire une contre-doctrine. Ils vont prendre le contre-pied de la vraie doctrine, de la sagesse de Dieu. Et ils vont essayer de la renverser. C'est ce qu'on appelle la gnose. Nous voyons bien, mes bien chers frères, qu'il y a aujourd'hui une doctrine, ne serait-ce que liberté, égalité, fausse fraternité. Il y a une doctrine, la doctrine de la liberté. Il y a une doctrine des droits de l'homme, qui est le fruit elle-même d'une doctrine plus fondamentale, qui est la doctrine du changement perpétuel. Parce que le changement permet d'échapper à la stabilité de Dieu. À partir du moment où le monde bouge tout le temps, et c'est le Concile Vatican II, Gaudium et Spes, le monde est en perpétuel mouvement. Alors si le monde est en perpétuel mouvement, que se passe-t-il? Il se passe que Dieu court après le monde, cherche à rattraper le monde qui lui échappe. Voilà, donc Dieu n'est plus Dieu. Pour nous, Dieu est la stabilité absolue. Et le monde ne court pas après Dieu. Il va vers Dieu et quand il l'a trouvé, ah, c'est le repos éternel. Et Satan va féliciter, approuver, favoriser tous les doctrinaires qui répandent dans le monde des doctrines qui justifient la révolte. Satan a favorisé les révolutionnaires. Il a fini par ricaner, parce que toujours Satan, la haine finit par prendre le dessus. C'est comme ça que Robespierre a été décapité. Enfin, Robespierre, c'était de la petite... C'était de la gnognotte. De violent, cruel, tout ça. Mais par rapport à l'auteur des droits de l'homme, par rapport à des penseurs, vous avez des philosophes comme Spinoza. Spinoza qui a pensé le monde avec une idée du divin sans qu'il y ait un Dieu. Ça, ce sont des génies du mal, et Satan les a favorisés. Vous avez les Descartes chrétiens, qui osent dire que l'homme n'est rien d'autre qu'une machine. Vous avez les Kant. Vous avez tous ces philosophes allemands, et le Nietzsche, ils sont payés soit d'argent, très souvent d'argent, hein. Faut pas croire que ces philosophes-là soient désintéressés. Un Voltaire, qui n'est pas un philosophe, qui est un pamphlétaire, mais Voltaire était très riche. Soit ils sont payés d'argent, soit, comme Spinoza, un certain orgueil, d'avoir créé un système intellectuel achevé, alors ils sont payés par la flatterie de l'orgueil. On peut se poser la question, Monsieur de Lassus cela pose dans son excellente étude connaissances élémentaires de la franc-maçonnerie. Est-ce qu'on peut dire que la révolte généralisée, l'idéologie généralisée, suffisent pour expliquer la franc-maçonnerie, ou n'y a-t-il pas une tête, une organisation au-dessus de tout cela? Et il répond, il est évident que chez les hommes, la doctrine ne suffit pas, la révolte ne suffit pas, il est évident qu'il faut nécessairement des chefs organisés qui veillent à l'avancée de la révolution dans un sens en évitant tous les chaos qui pourraient en arrêter ou en retarder la marche. Ce centre de décision, nous ne le connaissons pas. Nous le voyons. Comme nous ne connaissons pas Satan, nous ne l'avons pas vu. Enfin, il est révélé dans l'Évangile, donc nous savons qu'il existe. Mais il y a des choses dont nous voyons les effets sans voir les causes. Et là, c'est le cas de cette direction mondialiste, si vous voulez. Y a-t-il un gouvernement mondialiste? Il ne pourrait pas y avoir une telle cohésion, cohérence dans toutes les actions du mondialisme. Ne serait-ce que le fait qu'elles surgissent toutes au même moment dans de multiples pays, de façon coordonnée. Cela ne serait pas possible s'il n'y avait pas un gouvernement mondial. Y en a-t-il deux ou trois qui se disputent? Ça, c'est possible. Mais avec, malgré tout, un idéal commun, si vous voulez, ce sont des disputes de voleurs, mais qui sont tous d'accord pour dépouiller le possesseur légitime. Après ça, quand ils l'auront dépouillé, ils lutteront entre eux, mais pour l'instant, ils sont alliés, parce qu'ils ont besoin de l'alliance de leur force. Voilà ce que j'avais à vous dire. Oh, c'est très bref, encore que j'en suis déjà à 20 minutes, mais il faut prendre conscience de ces choses-là. Je vous invite à lire sur la franc-maçonnerie, je vous l'ai dit, connaissance élémentaire de la franc-maçonnerie, je peux vous le fournir par M. de Lassus, sur l'influence cachée de Satan, les méthodes de Satan pour suggérer sans se faire remarquer, je vous invite à lire « Groupe réducteur et noyau dirigeant » qui montre bien comment toute la société a été organisée, Adrien Loubier s'appelle l'auteur, a été organisée pour tout entière favoriser les progrès de cette révolte de la contre-église. Bien entendu, je vous invite à lire ce qui décrit ces progrès, notamment un grand livre, Atlas des civilisations, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle, de Pierre Hillard. Et puis je vous invite à agir. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas contenté d'enseigner, mais il a dit « Allez, allez, non seulement enseignez-les, mais baptisez-les, et apprenez-leur à observer ce que je vous ai commandé. » Il y a un zèle missionnaire. Je vous l'ai dit, c'est une des choses qui m'a frappé quand je suis allé voir M. le curé de Ried, l'abbé Épinay. Constamment, il parle de Mgr Lefebvre qui était missionnaire. Et ce zèle missionnaire a été perdu, et c'est une des raisons, une des causes de la décadence, de la débâcle de la tradition. Comment voulez-vous que le bon Dieu récompense ceux qui ne travaillent pas pour lui ? « Ah, Seigneur, nous avons bien compris ce que vous faites. » Et si vous avez compris, fallait retrousser les manches. Demandez à la Sainte Vierge, qui est forte comme une armée rangée en bataille. Un bon confrère, M. l'abbé Picot, missionnaire en Asie avec M. l'abbé Chazal, est passé nous voir. Et ce matin, il nous disait « On ne peut rien faire dans les missions, absolument rien, si on n'a pas un laïc décidé, courageux, qui entreprend les fidèles, surtout lorsque le prêtre n'est pas là. » Et le frère a posé la question à M. l'abbé Picot, avez-vous un secret? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui agissent comme cela? Et Monsieur l'abbé Picot a répondu, je ne sais pas s'il y a un secret, s'il y a une cause directe. Ce que je constate, c'est que ces missionnaires, ces gens qui font tant de bien en prolongeant notre action, en la préparant, en la prolongeant, ce sont tous des gens qui disent le chapelet et qui ont une grande dévotion à la Très Sainte Vierge. Elle les maintient dans la foi, elle les guide et elle leur donne du zèle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.